professeur à l'université de Sherbrooke au Canada, spécialiste entre autres de la mondialisation des résistances idéologiques et culturelles. Et ici à Washington, Herman Cohen, ancien diplomate, ancien sous-secrétaire aux affaires africaines. Merci à tous. Alors, Navandi, le président Biden continue de défendre sa décision de retirer les troupes américaines après le processus de Doha entamé sous l'ère Trump, même s'il reconnaît avoir été surpris par la rapidité donc de cette avancée taliban. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous?
Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu la fin de votre question parce que nous avons été coupés.
Oui, qu'est-ce qui selon vous n'a pas marché en ce qui concerne le retrait des troupes américaines et la prise de Kaboul?
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que c'est d'abord la surprise générale dans la mesure où personne ne s'attendait réellement à ce que Kaboul tombe aussi rapidement. Néanmoins, on s'attendait quand même que Kaboul tombe, sauf qu'on ne savait pas quand. Et donc, ce qui n'a pas marché, c'est que à partir du moment où les Américains ont décidé qu'ils allaient d'abord retirer leurs troupes, ensuite qu'ils ont établi un dialogue avec les talibans, le gouvernement afghan qui était en place était de fait délégitimé. Délégitimité en plus dans la mesure où son fonctionnement était un fonctionnement corrompu et problématique également, puisque les armées afghanes étaient loin d'être des armées efficaces, cumulant les problèmes de corruption, de non-formation, de désertion. Et donc tout cela a mené à la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant.
D'accord. Alors, Herman Cohen, le mois dernier, un sondage réalisé par The Hill and Harris X montrait que 73% des Américains soutenaient en fait la décision de Biden de retirer les troupes américaines, mais les dernières images du chaos à l'aéroport et les talibans au palais présidentiel afghan, avec tout cela, vous pensez qu'il pourrait en souffrir politiquement ici?
Je ne crois pas. Le citoyen américain qui vote, qui va voter l'année prochaine pour les députés et en 2024 pour le président, il ne va pas penser « Oh, il y avait un chaos à l'aéroport de Kaboul ». Ce qu'il va dire, c'est « Nous sommes finis avec Afghanistan, tant mieux ». Et nous en félicitons Biden d'avoir quitté l'Afghanistan. C'est ça qui compte. Donc, je ne vois pas que Biden va en souffrir pour sa vie
politique. Sur le long terme. Alors, Sami Aoun, est-ce qu'il ne fallait pas, par exemple, penser à la mise en place d'une force régionale avant le retrait de l'OTAN, ou autrement dit, que fait ou que peut faire la région?
Certainement, sur le papier, les accords de Doha étaient quand même acceptables minimalement, et il y avait quand même de bonnes ententes, je dirais, pour le retrait américain, mais pas nécessairement pour la passation des pouvoirs, en ce sens que les Américains, à vrai dire, n'ont pas forcé une réconciliation politique qui permet un partage de pouvoir et que les talibans ne soient pas tentés de monopoliser la décision politique en Afghanistan. Ça, je crois, était un point aveugle dans les préparatifs américains particulièrement. Deuxième point, oui, les talibans ont le vent dans les ailes parce que simplement le voisinage était plus préparé à avoir les talibans au pouvoir que cette politique et cette classe politique que professeur Navandi l'a très bien signifié, rongée par le fléau de la corruption. En ce sens que le Pakistan, par exemple, avait tout intérêt dans le retour des talibans. Aussi, l'Iran, malgré une certaine animosité entre talibans, sunnites et les chiites Hazara, a bien fait des passerelles avec les talibans pour se préparer à leur retour au pouvoir. Mais alors, ainsi, la Chine encore aussi avait un certain intérêt du retour des talibans, au moins qu'ils soient en bonne entente avec eux, ce qui est risqué quand même.
Alors, Firouzé, avez-vous peur d'un retour à la case départ avec un régime taliban fondamentaliste, même si les premiers discours semblent un peu plus modérés de l'avis de certains? On l'a vu aussi, la rencontre entre d'anciens dignitaires du pouvoir avec les talibans mercredi.
Alors, nul ne peut dire ce que va être l'avenir, mais ce que je crains malgré tout, c'est un certain retour de la moralisation talibane. Et ça, je pense que ce n'est pas une supposition. Ils ont bien dit que, en ce qui concerne les mœurs et en ce qui concerne le respect de l'islam, ils ne vont pas changer. Et donc, ce que je crains, c'est le retour de manivelle pour les femmes, pour les jeunes, surtout pour les habitants des villes, parce que c'est surtout eux qui vont être touchés par le retour des talibans. En revanche, en ce qui concerne la politique internationale, les relations avec les voisins, voire les relations avec l'Occident de manière générale, il faut attendre parce qu'effectivement, ils donnent beaucoup de garanties et les talibans n'ont pas vraiment avantage à se mettre à dos totalement la communauté internationale. Ils ont également besoin de cette communauté. Par ailleurs, apparemment, des discussions poussées sont en place pour mettre en route un gouvernement de coalition. Il faut attendre et voir un gouvernement de coalition. Et dans ces discussions, il y a les grandes personnalités qui participent, comme Amit Karzai, qui a déjà, depuis après son départ de la présidence, était beaucoup rapproché de toute façon des talibans et les soutenait.
Abdullah aussi.
Et puis il y a des pays étrangers, le Pakistan y participe également activement. Maintenant, il faut voir si c'est quelque chose qui va voir le jour sans heurts et sans conflit.
Alors justement, ambassadeur Cohen, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dit que le dialogue avec les talibans est inévitable puisqu'ils ont gagné la guerre, entre guillemets. Quelles sont les options de la communauté internationale avec ce nouveau régime afghan?
Je crois qu'il faut avoir des relations diplomatiques avec eux. Ils sont au gouvernement, ils ont le pouvoir. Donc, ils auront à traiter avec d'autres pays pour la commerce, pour beaucoup de choses. Mais il faut... Moi, je tire l'attention vers le Pakistan. C'est eux qui ont soutenu les talibans avec des armes, avec de l'argent. Et maintenant, je crois que vous allez voir les talibans pakistanais. On a déjà vu dans le passé des talibans pakistanais. Et ça, c'est très dangereux. Parce que le Pakistan est un pays avec
l'arme nucléaire.
Donc, moi, je regarde le Pakistan avec un peu de peur. Et bientôt, nous allons voir les talibans pakistanais.
Professeur Aoun, faut-il dialoguer avec les talibans ou aider la résistance que veut diriger l'ancien vice-président Amrullah Saleh?
Ça dépend de quel acteur on en parle. Si on parle de l'Occident ou de l'OTAN en général, les puissances occidentales, je vois mal comment ils peuvent gérer encore une fois une guerre civile. Il n'y a pas vraiment une menace extérieure comme dans le temps de l'Union soviétique pour que l'Occident peut-être encourage des moujahidines avec nouvelle version peut-être contre cet ennemi. Pour la Chine, qui est vraiment la vraie menace, puisqu'elle domine au moins l'économie minière en Afghanistan. Alors il faut voir ici si dans la stratégie de M. Biden et d'autres aussi puissances occidentales d'encercler la Chine, parce que l'Afghanistan pour les Chinois c'est un passage certainement très vital pour leur fameuse route de soie et de la ceinture, comme ils l'appellent. Alors on va voir si jamais les talibans pourraient, selon quelques dires qui sont dans l'air aujourd'hui, dans l'establishment américain ou d'autres chroniqueurs, et qui, que peut-être les talibans joueront un rôle pour arrêter ou dérailler les intérêts chinois en Afghanistan et ailleurs.
D'accord.
Et alors encore, peut-être l'Inde qui pourrait être antagonisée par un retour du Pakistan qui l'encercle en Afghanistan, surtout que les talibans ont de très bonnes relations avec des groupes terroristes et très fanatiques. D'accord. En Inde, elle-même, au Cachemire en particulier.
D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Léon Akonda à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, qui dit « C'est le commencement du règne des terroristes islamistes dans le monde. L'Afghanistan sera leur base. » Nous avons Archiduc Théodore à N'Djamena, au Tchad. Il écrit « Le retour des talibans au pouvoir a d'énormes conséquences, comme l'instauration d'un régime liberticide et de violation des droits humains avec la lapidation des auteurs d'adultère et la vengeance. La communauté internationale doit agir pour le respect des droits humains. » Et puis Maurice Thiam à Saint-Martin-de-Londres dans le sud de la France nous dit que la guerre pour les intérêts a comme conséquence l'abandon si les intérêts disparaissent. Voilà donc, il y a eu beaucoup de commentaires sur Facebook. Vous pouvez continuer à réagir. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington, le forum revient après une courte pause. UNICEF se dit choqué par les graves violations contre les enfants en Afghanistan durant l'offensive des talibans pour prendre le contrôle du pays. Suivez ce reportage de Rahim Ogul Sarwan et Samsama Sirat avec le récit en français de John Linton.
La violence en Afghanistan fait des ravages chez les enfants. Cette image, prise sur les réseaux sociaux, montre un jeune garçon afghan qui aurait été tué dans la province de Helmand. Les publications sur les réseaux sociaux de combat à travers le pays montrent des images d'enfants qui ont fait les frais de la guerre. VOA n'a pu vérifier de manière indépendante leur authenticité. L'UNICEF et Save the Children en Afghanistan ont déclaré lundi qu'au moins 27 enfants avaient été tués et 136 blessés au cours des jours précédents.
Je peux vous dire que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a encore plus d'enfants qui sont blessés ou morts ou qui meurent à travers le pays. Nous sommes donc vraiment inquiets.
Selon les Nations Unies, au moins 1000 civils ont été tués à Herat, Kandahar et Lashkargah le mois dernier seulement, alors que les talibans commençaient leurs offensives contre ces villes. L'ONU déclare également que plus de 390 000 personnes, la majorité des enfants, ont été déplacées depuis le début de cette année en raison de la violence en cours.
J'ai fui avec mes 5 enfants.
L'UNICEF a appelé les parties au conflit à cesser les combats.
Et c'est pourquoi l'UNICEF appelle toutes les parties au conflit à mettre fin à la violence, maintenant, à retourner à la table des négociations et à négocier la paix et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger les enfants et leur donner une enfance qui est leur droit.
Et malgré les appels au dialogue, les talibans ont intensifié les attaques contre les principales villes du pays.
Voilà, je rappelle nos invités pour ce Washington Forum depuis la Normandie en France, Filouzer Navahandi, professeur à l'Université libre de Belgique, auteur du livre Afghanistan, paru aux éditions Boeck. Depuis le Québec, Sami Aoun, professeur à l'Université de Sherbrooke au Canada, spécialiste entre autres de la mondialisation des résistances idéologiques et culturelles. Et ici à Washington, Herman Cohen, ancien sous-secrétaire aux affaires africaines. Alors, professeur Navahandi, la tournure qu'a prise l'intervention américaine en Afghanistan après 20 ans de présence remet-elle en cause la notion de construction de l'État ou, si vous voulez, de nation building?
En tout cas, ce qui est remis en cause, c'est certainement la version telle qu'elle était envisagée et que l'on voulait imposer à l'Afghanistan à force de dollars et d'experts qui devaient soutenir tout le processus. Mais je voudrais revenir un instant sur le reportage que nous avons vu sur la situation des enfants et le drame et les heurts, parce que ce reportage peut faire penser aux spectateurs que l'Afghanistan, avant l'arrivée des talibans à Kaboul, était un lieu sûr et une terre de paix pour tous, ce qui est loin d'être le cas. Déjà l'UNICEF disait avant cela que l'Afghanistan était un pays où il était difficile d'être un enfant et d'être femme en particulier. Et donc les problèmes des femmes, des enfants, de la population en général dans un pays l'un des plus pauvres de la planète était déjà là avant l'arrivée des talibans. Alors je ne veux pas défendre les talibans dont le régime n'est absolument pas sympathique, mais peut-être relativiser cette question. Mmh. Alors en ce qui concerne le nation building, comme vous le posez, comme vous me l'avez posé, il va y avoir un État qui va peut-être en coalition ou en tout cas différemment se mettre en place. Il ne sera certainement pas un État occidental de type occidental comme nous pouvons l'imaginer, mais l'État n'a jamais été absent réellement, sauf pendant les périodes de grands conflits, enfin, depuis 40 ans, mais l'Afghanistan a une tradition d'État depuis sa création au XVIIIe siècle.
D'accord. Alors, Sami Aoun, peut-on parler ici d'échec du modèle occidental de l'État ou de démocratie? Et si oui, comment s'y prendre alors?
Oui, c'est un dilemme quand même assez pesant sur nous tous. Est-ce que la démocratie libérale, occidentale, européenne, américaine du Nord est universalisable ou c'est quelque chose qui est proprement dit spécifique à cette civilisation? Alors, et d'autre part, est-ce que vraiment on est incapable de s'entendre au niveau humanitaire, surtout dans le monde musulman, sur quelques valeurs communes, sur des valeurs de base, qu'il soit la liberté de conscience, qu'il soit l'état de droit, qu'il soit moins arbitraire dans la gouvernance? Et voilà, vous avez une question assez difficile. L'Occident stratégique, comme on dit, il a toujours eu ce dilemme. D'un côté, il veut respecter peut-être les traditions et chercher ses propres intérêts à traiter avec tous les régimes, indépendamment de leurs idéologies, avec des despotes et des autoritaires. En même temps, il voulait promouvoir ses valeurs démocratiques et les idéaux de la modernité. C'est un dilemme très difficile. Suivre ses intérêts et équilibrer ça avec ses propres valeurs, l'Occident ici a un problème vraiment de promotion de ses propres valeurs. Mais à titre comparatif, ni la Chine, ni la Russie et d'autres puissances non occidentales se soucient beaucoup des droits de la personne et leur promotion.
D'accord. Alors, Herman Cohen, la situation en Afghanistan est très suivie en Afrique, notamment dans la région du Sahel. Les présidents du Niger et du Nigeria ont averti que la guerre contre le terrorisme n'était pas terminée et qu'ils craignaient qu'elle se déplace en fait en Afrique. L'Afrique doit-elle avoir peur?
Je ne crois pas, parce que les talibans ne vont pas s'intéresser aux islamistes d'Afrique, mais ils vont sympathiser avec eux. Ce que je crains surtout, c'est que l'Amérique maintenant et d'autres pays vont faire une guerre économique contre le régime des talibans. Et donc, ça va demander aux talibans de gagner de l'argent seulement avec l'héroïne qui vont exporter vers le monde extérieur. Et c'est un peu ironique que le plus grand consommateur de drogue sera les États-Unis. Donc les États-Unis font un boycott économique et ils vont faire l'héroïne et c'est l'Amérique qui va l'acheter. Donc c'est un cercle vicieux à mon avis.
D'accord, nous n'avons plus beaucoup de temps. Professeur Navandi, l'intervention militaire américaine en Afghanistan doit-elle servir de cadre d'école pour la France, par exemple dans le Sahel, où sa présence fait aussi débat, hein, même si la France a annoncé une mutation de ses opérations militaires dans cette région?
La France réfléchit depuis quelque temps quand même à son positionnement en Afrique et en particulier au Sahel. Mais je pense que ce qui se passe en Afghanistan doit être une base de questionnement pour les interventions occidentales de manière générale dans le monde entier qui n'ont pas nécessairement donné les résultats escomptés. Et l'une des questions qui se pose dans les interventions, c'est les objectifs déclaré et réel. Est-ce que l'on intervient vraiment uniquement pour combattre le terrorisme, se protéger, arrêter l'immigration ou encore pour promouvoir le développement? Il y a toujours une ambiguïté qui a eu lieu.
Alors, professeur Aoun, la victoire des talibans pourrait-elle galvaniser les groupes djihadistes en Afrique ou ailleurs d'ailleurs?
Oui, certainement. Il y a un effet vraiment quand même de mobilisation, qu'on le voit. Il y a une euphorie qui apparaît sur les réseaux sociaux, dans les déclarations, de partout à peu près, surtout dans cette mouvance qu'on appelle l'islamisme politique. Maintenant, est-ce que les talibans vont être encore une fois une couveuse pour Al-Qaïda et ses franchisés ou autres? Ça, c'est une question à voir. Mais on sait qu'à l'intérieur de les talibans, il y a une faction importante, celle du circuit de Haqqani, qui a quand même une belle complicité avec Al-Qaïda et les terroristes, et que aussi partagent leur point de vue de frapper l'ennemi lointain, c'est-à-dire l'Occident, et aussi se débarrasser des despotes et des autoritaires dans les régimes en place partout dans leur espace islamique ou asiatique ou africain.
Alors, Herman Cohen, la dernière question vous revient. Alors, peut-être les régimes dans d'autres régions comme en Afrique devraient peut-être plus penser à la bonne gouvernance?
Je crois que oui. Regardez le Sahel. Les islamistes sont là, ils s'appellent islamistes, mais ils sont surtout des gens pauvres, des jeunes hommes qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas d'emploi, qui font la guerre contre les gouvernements. Et ils sont pas vraiment des islamistes. Ce sont des gens malheureux et il faut que le gouvernement s'en occupe avec l'aide, avec le développement.
La question du développement, justement, on a vu malheureusement aussi dans d'autres régions comme la RDC, les États-Unis sont obligés aussi d'envoyer des forces spéciales, n'est-ce pas, pour aider un peu Voilà, malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, et sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Je n'oublie pas, bien sûr, toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.